qui à la maison, mais sur Zoom et qui peuvent être joints à nous et au Seigneur en ce dimanche matin. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques où nous allons poursuivre notre étude. C'est l'épître de... Allez, le mot-clé, allez, allons-y. Ça fait peut-être 8 messages qu'on fait dessus. Si vous ne le savez pas encore,
Maturité.
ouais, on redit?
Maturité.
Voilà, l'épître de la maturité. C'est vraiment l'épître où on reçoit de la part du Saint-Esprit un enseignement pour passer d'un stade, je dirais, de chrétien enfant, fragile, faible, qui est sauvé par la grâce de Jésus-Christ, mais qui a du mal à poser des jalons solides dans sa vie, des jalons spirituels, pour devenir ancré, mûr, affermi, abouti, parfait. Parfait est le mot qui est dans le texte ici. Et c'est le mot qui nous donne en grec non pas l'idée d'une perfection qui est celle de Dieu lui-même, hein, mais vraiment cette idée d'un aboutissement, d'un ancrage, d'un fruit qui est mûr plutôt que d'un fruit qu'on va croquer et qui est acide et il n'a pas son goût vraiment agréable. Et tous, lorsqu'on mange un fruit, on l'apprécie tellement lorsqu'il est juste à point et que tous les arômes, toutes les saveurs, eh ben, sont là. Eh bien, c'est vraiment des hommes et des femmes et des jeunes arrivés à cette saveur en Jésus-Christ que Dieu a pour objectif de faire de nous. Et on le revoit dans l'introduction de cet épître, Jacques, chapitre 1. Au verset 4, la fin du verset 4, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parfait, accompli, sans faillir en rien. On a vu tout au long de nos études que il fallait que nous mûrissions et adoptions le regard de Dieu à bien des égards. Et la première chose dont Jacques va parler, c'était le regard sur les épreuves de la vie, sur les malheurs, sur les difficultés, sur les drames, les maladies, les deuils, les catastrophes et tout ce qu'on peut vivre, des divorces, des pertes d'emploi, des pandémies. Et on peut continuer la liste de malheurs qui peuvent intervenir dans notre vie. Et le Seigneur nous invite à porter sur ces événements un regard sage, un regard qui va nous permettre de faire de ces événements quelque chose de constructif, quelque chose qui va bâtir, quelque chose qui va nous apprendre et nous rendre plus forts plutôt que de nous abîmer, de nous laisser nous emmener peut-être dans l'amertume, dans la colère, et faire de nous non pas des hommes et des femmes de Dieu plus forts et plus heureux, mais des hommes et des femmes qui se laissent piéger par l'affliction et par toutes les émotions négatives qui vont l'accompagner. Alors non. La première chose à faire, c'est de vraiment faire confiance à Dieu et de porter sur ces événements un regard qui est celui d'une parfaite joie. Et c'est un regard difficile à avoir parce qu'il est dit « regarder comme un sujet de joie complète ». C'est le verset 2, Jacques 1, verset 2. « Regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors là, pour poser un regard comme ça sur les événements douloureux qui surgissent dans notre existence, il faut vraiment une sagesse qui ne peut pas venir de nous-mêmes, qui ne peut pas venir d'une sagesse humaine, mais qui vient du Seigneur. Et il nous est dit dans ce passage, si quelqu'un manque de sagesse lorsqu'il est un petit peu malmené par la vie, par l'existence et ses malheurs, si quelqu'un manque de sagesse pour dire « non, je veux poser un regard, comme Dieu me le demande, un regard de joie complète parce que je sais, non pas parce que je me réjouis d'avoir mal, pas maso, on ne se réjouit pas d'avoir mal. Ça, quand on a mal et on pleure. Mais le Seigneur dit « ne t'arrête pas là, considère que ces choses sont dans ma main, je vais les utiliser pour ta vie, je vais les utiliser pour forger en toi des qualités humaines, mais non pas de l'humain humain, mais de l'humain tel que Christ nous a révélé le vrai homme. Un Christ vrai homme qui vit les choses de la vie humaine, mais selon Dieu. Il est notre héros, il est vraiment Jésus-Christ et notre héros en tant qu'homme, homme parfait, mûr et accompli. Et pour pouvoir croire que telle chose que nous vivons et qui est difficile, Dieu va l'utiliser pour notre bien. Il n'y a que notre confiance en Dieu qui peut nous amener à porter ce regard. Lorsque je sais qui est Dieu, lorsque je sais que Dieu est fidèle, lorsque je sais qu'il m'aime, alors oui, je peux croire, tel que Romain l'exprime, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il n'y a que un regard de foi qui surmonte l'obstacle et qui peut nous poser face aux épreuves, face aux difficultés, dans une paix que le monde ne connaît pas. Et dans une joie intérieure même, parce que nous pouvons même en arriver à nous réjouir de l'œuvre que Dieu façonne en nous, de nous. Il est en train de façonner un chef-d'œuvre. Jésus-Christ a commencé avec chacun de ses enfants une œuvre qui l'amènera à la perfection. Amen. Et nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu, chacun autant que nous sommes, des chefs-d'œuvre qu'il est en train de façonner, de construire, de graver, de sculpter. Il le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. En attendant, là, il est dans la sculpture. Hein, c'est comme ces sculpteurs qui prennent un bloc de marbre et puis eux, ils savent, dans leur esprit, ils savent ce que ça va devenir. Au départ, c'est un bloc, mais le sculpteur, lui, dans ce bloc, il voit. Et puis, il va enlever tel morceau de pierre, et puis ça va prendre forme petit à petit. C'est ce que Dieu fait avec nous. On ne s'est pas mis en voyage avec Dieu juste pour vivre une existence sur la terre où on espère qu'il nous épargnera des maux qui sont communs à tous les hommes, perte d'emploi, maladie, deuil, ceci. J'espère pouvoir traverser l'existence avec un Dieu sympathique qui m'épargnera tous ces malheurs. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu est de travailler notre être intérieur, vraiment en tant qu'être humain. Qui suis-je à l'intérieur de moi-même? Et comment est-ce que Dieu veut faire de moi quelqu'un de plus en plus précieux? Un joyau, un bijou, un chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, il passe par le marteau du sculpteur. Il passe par les épreuves et par les difficultés. Et ce sont ces difficultés qui participent aussi à développer en nous des beautés, des vertus qui sont celles de Jésus-Christ à sa ressemblance. Et n'oublions jamais que Jésus-Christ lui-même n'est pas passé par un autre chemin. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est par la souffrance qu'il a été amené à la perfection, qu'il a été rendu parfait. Jésus-Christ a été rendu parfait en tant qu'homme, dans son histoire d'être humain, de la conception jusqu'à son ascension, en tant qu'homme, dans son expérience humaine, Dieu qui s'est fait homme. Eh bien, dans son expérience humaine, cette expérience a été portée à aboutissement dans l'être intérieur de notre Seigneur par les souffrances. Et il fallait qu'il passe par là, le prince de notre salut. Alors, il était question ici de sagesse. Et nous avons besoin de sagesse. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous sans faire de reproche. Et on avait vu, il y a plusieurs mois, il vaut mieux commencer à nous mettre devant Dieu, non pas comme des gens déjà sages, mais en disant, Seigneur, je pense que je suis plutôt dans la catégorie de ceux qui manquent de sagesse. Et j'ai besoin que tu m'en parles. Ici, il s'agissait d'avoir de la sagesse pour être capable de porter le regard sur les épreuves et les choses douloureuses, le regard qui va nous permettre d'aboutir même à la joie et à une patience pour supporter l'épreuve qui va accomplir une œuvre intérieure et qui va aboutir à ce que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Aujourd'hui, au chapitre 3, il est de nouveau question de la sagesse. Donc, c'est pour ça que je suis revenu dans ce chapitre 1 parce qu'il est question à nouveau de la sagesse. Mais cette fois-ci, c'est plus la sagesse d'un regard qu'on pose sur les choses douloureuses de la vie. Maintenant, il est question d'avoir de la sagesse dans nos rapports les uns avec les autres, dans les relations humaines. Et on a, dans tout le chapitre 3, il est question en particulier de nos interactions verbales, de ce qu'on peut se dire les uns aux autres. Et puis il dit, mais c'est pas possible, par la même bouche, il peut sortir des bénédictions et des malédictions. On peut bénir le Seigneur et insulter les gens. On peut dire des choses formidables, et puis l'instant d'après, il y a tout un tas d'ordures qui peuvent sortir de notre bouche parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère, parce qu'on est frustré, parce qu'on nous a offensés. Et il dit, ben finalement, la même source fait jaillir de l'eau amère et puis de l'eau douce. Il dit, il ne devrait pas en être ainsi, mes frères. Et il dit, notre langue, c'est un feu. C'est un venin mortel et nous sommes appelés à pouvoir contrôler notre langue, à pouvoir décider que notre bouche devienne un instrument entre les mains de Dieu pour bénir et non pour maudire. Et l'on avait rappelé ce beau verset, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, une décision où on se dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, hein. Eh ben, je décide de mettre un frein à mes lèvres, je décide que ma bouche participe, soit en projet, je crois que c'est comme ça qu'on l'avait formulé, que ma bouche soit en projet avec Dieu. Et pour que ma bouche soit en projet avec Dieu, il faut d'une part renoncer à tout ce qui est mauvais et qui peut en sortir, et d'autre part, ne pas manquer les occasions où on va pouvoir, par notre bouche, construire dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est le sens de édifier et serve à l'édification. Hein. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. Et il y a des paroles, il y a des choses qu'on peut dire. Et celui qui les entend, ben c'est une source de vie. C'est un arbre de vie. C'est un baume, c'est un médicament. C'est quelque chose de précieux qui va rentrer par l'oreille, se poser sur son cœur et lui permettre d'avancer, de guérir, de comprendre, d'être éclairé et d'aller dans le bon sens. Et notre bouche doit vraiment être constructive, bâtir et transmettre l'évangile. Alors, nous arrivons maintenant à la suite, parce que c'est immédiatement après avoir parlé de la langue, de la bouche et de nos relations les uns avec les autres, que le texte qui va nous occuper prend place au verset 13 à 16. Donc, un court passage, mais qui est bien encadré avec toutes ces relations difficile où Dieu nous demande d'avoir une vraie maturité. On a vu dans notre vie, il y a les événements de la vie. Ça, c'est un des grands points de l'existence. Mais le deuxième grand point de l'existence, ce sont les autres. Et dans le travail, souvent, il y a l'aspect technique du travail. On peut être confronté à des difficultés technique et contextuel, environnemental quelque part. Mais le plus souvent, la grande difficulté dans les professions, on dit, ben c'est l'humain. L'humain. Ah, j'en ai goûté cette semaine de l'humain, là, à devoir régler les conflits entre collègues, entre parents, entre élèves. C'était la dernière semaine avant les vacances et vous savez, tout le monde est fatigué. Et quand on est fatigué, ça pète beaucoup plus. Donc, c'était une semaine pleine d'humains. Et des fois, on se dirait, ça serait mieux d'avoir, je sais pas, pas l'humain, c'est compliqué, quoi. Et justement, le chapitre 4 dit quoi? Regardez le premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Et ça continue au verset 2. Vous convoitez, vous êtes meurtrier envieux, vous avez des querelles et des luttes. Ah, ça y va, hein. L'être humain, ça castagne, hein. Eh bien, nous avons besoin de vraiment prendre des décisions et de grandir en tant qu'enfant de Dieu, en disant, Seigneur, je veux pas rester un, un enfant nouveau-né qui, en Jésus-Christ, mais je veux devenir adulte, mûr. Je veux grandir, je veux croître. Et ça va passer par des relations avec les uns et les autres qui m'entourent, qui soient vécues à partir de la sagesse d'en haut. Nous avons, en fonction des gens et de ce qui se passe ensemble, nous avons des pensées qui nous traversent l'esprit, nous avons des principes, et ces pensées et ces principes vont mettre en œuvre nos réactions, nos paroles, et la plupart du temps, on va les justifier. On va dire, j'ai eu raison, c'est normal que je réagisse comme ça, que je lui dise ceci, etc. Et on va voir dans notre texte qu'il y a deux sagesses. Mais il ne faut pas se tromper de sagesse. Quelle est celle qui nous fait agir, réagir, parler? Quelle est la sagesse qui va régir nos relations avec les autres? À commencer dans la famille, c'est une question importante. C'était la semaine dernière et celle d'avant, je crois. En ce moment, moi, je m'affronte beaucoup avec Émilie. Émilie, c'est notre fille aînée. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon. On ne s'affronte pas si souvent que ça, mais ma femme trouve que oui. Et des fois, il y a des trucs, elle les pose, et moi, ça me fait réagir. Hein, Et donc, après, on discute sec. Hein. On s'affronte un peu. Voilà. Et évidemment, moi, je trouve que c'est normal, c'est justifié, avec mon raisonnement, etc., etc. Puis après, ma femme vient... Et puis elle dit, tu vas rien construire bien comme ça. Sur le fond, je pense que j'ai pas tort. Sur le fond. Mais sur la manière de gérer peut-être cet aspect qui me fait tiquer, ou apparemment c'est pas constructif, vous voyez. Et donc, c'est le moment où c'est important de savoir si finalement l'interaction que je mets en œuvre avec ma fille, est-ce que c'est une sagesse humaine, charnelle, d'en bas, ou est-ce que c'est une sagesse qui vient d'en haut? Bon, en fait, c'est très facile à repérer. On va lire pourquoi. Alors, Jacques, chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Bon, alors là, tout le monde lève la main, sauf les faux modestes. Ben, évidemment, dans le quotidien, on croit tout le temps. On est persuadé d'être dans le juste, d'être dans le vrai, d'avoir eu raison de réagir comme ça, de dire ceci à cette personne. Voilà, on pense agir avec sagesse et intelligence, et à plein de choses de raisons valables, valides, qu'on met en avant et qu'on se met en avant pour soi-même. Eh bien, il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ah ! Alors là, on a un premier mot qui apparaît, c'est la douceur de la sagesse, mais ils ont dû se tromper. On va voir si la suite... Alors, qu'est-ce que ça dit après? Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, alors moi je suis zélé hein, pour que mes filles marchent droit. Hein, voilà, comme tout parent, on est zélé pour que son foyer, ses enfants, on voit tel truc. Mais ce zèle, est-ce que c'est un zèle amer? Vous voyez? Ou est-ce que, donc le zèle, c'est vraiment l'implication de soi, hein, on est impliqué, on n'est pas désintéressé, on n'est pas là, ils font ce qu'ils veulent, ils viennent ce qu'ils veulent. Moi, ça va. Non. Le zèle, c'est vraiment cette énergie, cette foule, cette implication qu'on a. Et c'est bien. Ayez du zèle et non de la paresse, nous dit la parole. Le problème, c'est quand le zèle est amer. Et c'est pareil dans l'Église. On peut avoir un zèle amer dans l'Église. On peut être zélé pour Dieu, pour son œuvre, pour que les chrétiens grandissent. Je pense au pasteur. On est beaucoup zélé, hein. Mais ce zèle peut devenir amer, en fait. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ah, ça c'est sûr que là, quand on s'affronte avec Émilie, on se dispute, quoi. Hein, bah, je sais pas, plus ou moins. En tout cas, il y a un esprit de dispute à l'instant T, hein. Il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et ça, c'est intéressant. Ne mentez pas contre la vérité. Parce que nous, on se persuade d'être dans la bonne sagesse, dans le bon, on a raison, et même spirituellement, on se persuade d'être dans le juste. Et le Seigneur ici nous dit, bah, écoute, si tu veux savoir de quelle sagesse tu es animé, regarde si tu as un zèle amer et un esprit de dispute, et si ce n'est pas le cas, rends-toi à l'évidence et ne mens pas contre la vérité. Il dit, cette sagesse, verset 15, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ça fouette un peu, hein. Diabolique même, hein. Oui, Satan aussi a une sagesse. Ça saurait s'il n'en avait pas. C'est comme ça qu'il a séduit Ève. Dieu a-t-il réellement dit, etc. Il commence à argumenter. Oui, il y a une sagesse. Ben, elle est diabolique. Elle est diabolique. Mais elle peut nous prendre au piège. Et d'autant plus facilement lorsque ça s'accorde avec l'état de notre cœur qui est sur, qui est pas au diapason du Saint-Esprit, mais qui est plutôt au diapason de nos, bon, mais, comme il dit au chapitre suivant, hein, de nos passions qui combattent dans nos membres. Hein, voilà, ça vibre là-dedans, mais ça vibre pas par le Saint-Esprit, ça vibre par la chair. On relit au verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. Et dans ces disputes, dans nos interactions un petit peu houleuses avec les gens, que ce soit avec les voisins, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la profession, que ce soit avec notre conjoint, avec nos enfants, ça finit toujours mal. Ça finit, il y a pas des bonnes choses, il y a un esprit de dispute, ça s'affronte, et ça finit par déborder, il y a des mauvaises actions. Et ça va à l'opposé de ce que nous présente le verset 17, la sagesse d'en haut. Donc il y a la sagesse d'en bas, puis il y a la sagesse d'en haut. À quoi est-ce qu'on la reconnaît? La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Modérée. conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, on est bien d'accord que la plupart du temps, on est animé par le désir de vouloir semer le fruit de la justice. Bon, moi, quand je prends la tête à mes enfants, à la base, c'est pas pour les entreprendre sur des sujets... c'est pour semer la justice, c'est pour... il me semble. Mais le fruit de la justice, il est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Et semer le fruit de la justice est une bonne chose, mais la manière dont on va le semer est d'une importance capitale. Soit on va semer ce fruit dans l'affrontement, avec une sagesse, un zèle amer, un esprit de dispute. Et puis on va passer à côté. Et c'est là où nous avons besoin de mûrir, moi en premier, hein, mais vous aussi certainement, tous dans nos relations les uns avec les autres. Pour nous débarrasser de la sagesse d'en bas, qui est première, c'est elle qui surgit en premier. Dès qu'on nous titille, dès qu'on nous pousse un peu, la sagesse d'en bas, et on se justifie, on a raison, c'est normal, ça. On a des tas de modes de pensée, hein, qui sont là, je vais quand même pas me faire marcher dessus. Moi, j'aime bien, il y a un truc, ah oui, la sagesse d'en bas. C'est quand les gens qui disent bah, écoute, moi je suis franc, moi je suis franc, moi je veux pas être hypocrite. D'ailleurs, le Seigneur nous demande de pas être hypocrite, donc moi je lui dis ce que je pense. Hein. on est des malins quand même, on arrive à rendre spirituel des choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit ne mentez pas contre la vérité. Et c'est pas si évident. Hein, on est vite, on se persuade vite, parce que c'est un fruit souvent de justice pour de vrai. Hein, on se persuade vite qu'on est animé par la sagesse d'en haut, alors qu'en fait on n'est pas animé par la sagesse d'en haut. Voilà. Et je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons être vigilants. Et grandir, et dire, Seigneur, je veux que mes relations, mes rapports aux autres, ils se nourrissent d'une sagesse d'en haut, et pas d'une sagesse d'en bas. Au verset 13, vous avez noté le mot « bonne conduite », qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Alors, je fais un petit aperçu du mot grec ici, qui est rigolo pour nous en fait, enfin, qui nous aide à bien comprendre. Dans le grec, là, la conduite, c'est le mot anastrophe. Et anastrophe, le contraire, c'est catastrophe. Voilà. Ben, c'est vraiment c'est cette racine-là. Hein. Voilà. Anastrophe et catastrophe. Et ben voilà, nous, notre conduite, est-ce que finalement, ça, elle va être anastrophique ou catastrophique? Voilà. Hein. C'est vraiment les deux sagesses. Avec la sagesse d'en bas, ça va être catastrophique. Avec la sagesse d'en haut, on aura une bonne conduite, une bonne anastrophe, anastrophique. Hein. Voilà. Et finalement, c'est assez simple de s'en rappeler. Est-ce que finalement mes relations aboutissent plutôt, est-ce que c'est plutôt catastrophique? amer, esprit de dispute et tout ça, et tout ça, et on n'en sort pas? Ou bien est-ce que ça construit? Est-ce que c'est pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits? Est-ce que c'est vraiment, ça recherche la paix? Ça veut dire qu'il va falloir remettre en question des tas de modes de pensée qu'on a. Vous savez, je rappelle que la sagesse, c'est la bonne pensée, la pensée juste, d'une part, et la deuxième partie de la sagesse, c'est de mettre en application cette pensée juste. Mais on ne peut pas agir avec sagesse quand on n'a pas d'abord la pensée juste. Et puis après, il faut trouver les ressources et la force de mettre en application la pensée juste. Je redonne juste un exemple. Je peux avoir très mal au dos et je cherche la sagesse. Tant que je ne sais pas quelle est la bonne chose pour avoir moins mal au dos, je ne peux pas appliquer un comportement sage pour mon dos. Voilà. Alors, et c'est pour ça que, comment ça s'appelle le truc où on aménage les espaces, les manières, les postures? Posturologue? Ça existe, ça, je crois, hein? Posturologue, tout ça. Voilà. Ouais, mais je crois que c'est surtout sur les aménagements d'espaces de travail, des postures, les gestes qu'on va faire. Et dire, ben ouais, mais regarde, quand tu t'assois comme ça, quand tu regardes ton écran, quand tu croises les jambes, quand ceci, quand cela, eh ben, ça accentue. Et donc, il y a tout un savoir théorique qui va nous permettre d'agir désormais avec sagesse. Vous vous souvenez de ça? Et ce savoir théorique, pour nous, il est dans la parole de Dieu. Et quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on ne cherche pas à sonder les Écritures, à connaître la pensée de Dieu, ben c'est difficile de marcher dans l'existence avec sagesse. Parce que toute la sagesse qu'on a, c'est celle que nos parents nous ont transmise, que le monde nous transmet, que les médias nous transmettent. Peut-être qu'à certains égards, elle est juste, mais à d'autres égards, elle ne l'est pas. Parce que la pensée de Dieu n'est pas celle du monde. Et donc, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre quelle est la pensée de Dieu, de découvrir sa pensée, ses préceptes, ses commandements. Et une fois qu'on les sait, il faut les appliquer. C'était toute la question dans l'épître de Jacques, de ne pas se contenter de lire la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. C'était toute la question. Et après, donc, cette deuxième. Ah, le mot m'échappe, mais voilà, cette sagesse qui est en deux étapes, si vous voulez. La première, c'est le savoir. Je sais quoi mettre en œuvre. Puis la deuxième, bah, une fois que je sais quelle posture avoir, quel geste ne pas faire, bah, faut l'appliquer, quoi. Et vous savez très bien que, voilà, il ne faut pas porter tel poids de telle manière. Et bah, si vous continuez par exemple, faut se baisser, faut plier les genoux, etc., plutôt que de se pencher direct. Enfin voilà, il y a des tas de choses. Eh ben, si on continue alors qu'on le sait, mais qu'on ne met pas en œuvre, eh ben, on manque de sagesse. Eh ben là, c'est la même chose pour nos relations les uns avec les autres. Il va falloir qu'on plonge dans la parole de Dieu pour trouver. Quelle est la pensée du Seigneur? Bon, une des phrases, par exemple, du Seigneur qui nous fait un peu mal, comme ça, c'est à propos de si l'on te frappe sur la joue droite. Vous en pensez quoi, Nicole? Ben non. Ah là, c'est tout. Ben non. Mais parce que notre vieil homme, il dit ben non, parce que ça nous semble, c'est pas une sagesse d'en bas, ça, de tendre l'autre joue. On se dit, non, ben non, alors à ce moment-là, on va tout le temps me marcher sur les pieds, on va tout le temps m'écraser, on va tout le temps ceci, on va tout le temps cela. Non, je pense que c'est en répondant œil pour œil, dent pour dent, que je vais assurer un équilibre et un mode de vie paisible. Tous les gitans me disent ça à l'école. C'est pour ça que leurs enfants, tout le temps, ils se battent. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais tranquilles, il n'y a que des bastons. Le jour où ils ont compris, je vais me battre hein, pour ça, mais que non, je ne me fais pas justice moi-même, c'est l'un des grands trucs de la démocratie, on ne se fait pas justice soi-même. Mais j'en réfère à l'autorité compétente, même si des fois elle est un peu lente. Ben ça vaut, c'est comme ça que je vais construire un contexte de vie beaucoup plus paisible. Et vous voyez, la sagesse humaine nous dit non, non, je vais assurer moi-même ma défense, mes trucs, mes machins. Eh bien, en fait, ce sont des communautés qui sont tout le temps en affrontement, en guerre, où on n'est pas. Et en fait, on n'a aucune paisibilité. Enfin, voilà. C'est dans ce sens que Jésus dit. Faisons confiance à la sagesse d'en haut. Souvent, elle nous prend à contre-pied, forcément. Hein. Vous savez, si la sagesse d'en haut, non, elle prend à contre-pied. Et dans nos relations les uns avec les autres, nous avons vraiment besoin de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de la sagesse, apprends-moi ta sagesse. Et c'est très facile de savoir où on en est. L'une, elle est pacifique, modérée, conciliante. L'autre, elle est dans un esprit de dispute et avec un zèle amer. Je pense qu'on est assez grand pour faire la différence entre les deux. Oui? Amen?
Amen.
Facile de savoir où on est, hein? Alors, douceur, paix. Cesser de mentir contre la vérité. Et ça, je crois que c'est la clé de notre maturité. Quand on accepte de cesser de mentir contre la vérité. Il y a un moment à l'intérieur de nous-mêmes, il y a cette sorte de capitulation. Et voilà, si je vois qu'il y a un esprit de dispute, un zèle amer, allez, pose les armes. Et dit, ben Seigneur, j'admets que je suis animé par une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. Et je te demande pardon pour ça. Et maintenant, je veux rentrer dans ta sagesse, donne-moi ta sagesse qui est pacifique, conciliante, modérée. Notre orgueil, il en prend un coup. Il y a une humiliation. Mais comme on le verra plus tard dans l'épître de Jacques, il vaut mieux des larmes et être humilié sous la main du Seigneur parce qu'alors il nous élève. Amen. Prions. Seigneur, tu vois que nos relations humaines occupent une grande partie de notre vie, de notre existence, et l'humain, c'est compliqué. C'est normal parce que, Seigneur, je suis pécheur et ils sont pécheurs. Seigneur, tu veux vraiment nous faire grandir en nous amenant à être lucides sur ce qui nous anime dans nos relations. Tu veux, Seigneur, qu'on ait le courage d'analyser si nous sommes animés par la sagesse d'en bas ou conduit par la sagesse d'en haut. Seigneur, tu veux qu'on vienne à toi et qu'on cesse de mentir contre la vérité. Aide-nous, Seigneur, dès que nous analysons et que nous voyons qu'il y a un esprit de dispute, de conflit, un zèle amer en nous, dans une situation, aide-nous tout de suite à identifier que c'est une sagesse d'en bas et à cesser de d'argumenter pour nous-mêmes, de nous tromper nous-mêmes, en voulant faire passer cette sagesse d'en bas pour une sagesse d'en haut. Parce que nous sommes un peu tordus, Seigneur. Et tu vois que on prétend et on se prétend à nous-mêmes. On se justifie en prétendant être animé d'une sagesse d'en haut. Aide-nous, Seigneur, à être lucides, juste en regardant le fruit. Si ce fruit est dispute ou si ce fruit est pacifisme. Si ce fruit est zalamère ou si ce fruit est la paix. Aide-nous à rejeter, à condamner toutes les situations que nous vivons où nous sommes un peu en guerre, nous sommes dans ce zélamère. Nous ne sommes pas dans l'esprit modéré, pacifique, conciliant et plein de miséricorde. Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on sera en accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dire, des vérités. Et tu nous invites aussi à ne pas être hypocrite et à ne pas fuir devant les choses qui sont nécessaires d'être dites. Et tu veux qu'on le fasse animé par la sagesse d'en haut. Et Seigneur, nous nous rendons compte que justement, lorsqu'il y a des difficultés à régler, des difficultés relationnelles, des choses importantes, où il va falloir qu'on fasse un point et qu'on dise des choses et que des choses soient dites, combien il est important justement d'être animé de la sagesse d'en haut et pas de celle d'en bas à ce moment-là. Aide-nous, Seigneur, parce que notre première réaction, notre premier mouvement, c'est notre être naturel, le vieil homme, qui agit et qui réagit. Aide-nous à le tenir mort et à nous réclamer de toi, à nous réclamer de ton esprit. Et qu'ainsi tu nous amènes à des relations de plus en plus paisibles, pacifiques, qui construisent, qui sont ajustées, et non pas des relations tumultueuses et catastrophiques. C'est au nom de Jésus que nous te prions pour que tu nous aides à mûrir en ce sens, à faire des progrès. Amen.
Merci Adrien pour nous avoir éclairé sur les différentes sagesses. Pour moi, j'aurais besoin des chocolats pour essuyer mes verres, pour regarder quel type de sagesse. Quelques annonces. Mardi, 15h, la réunion ici présente sur à l'église.
Non, mardi, c'est sur Zoom.
Sur Zoom, pardon. Donc, sur Zoom, 15h. Vendredi, 18h ou 18h15? 18h? 18h30. Bon, c'est ni l'un ni l'autre, c'est 18h30. Donc là, par contre, ce sera présent ici. Donc, exhortation et louange. Dimanche, donc, le culte, en présence ici, un petit peu avec Zoom. Par contre, n'oubliez pas que dans la nuit de samedi à dimanche, il faut changer l'heure. Sinon, vous risquez de venir plus tôt. Et peut-être... voilà. Pour les offrandes, donc il y a la boîte à offrandes ici, ou sinon sur le mode de choix que vous avez choisi. Donc n'hésitez pas.
Dans les petites annonces, simplement, sachez que cet après-midi, on a une réunion du Conseil de l'Église. Par visioconférence.
Donc, priez pour la réunion du conseil. Jean-Denis,
Oui.
des sujets.
Deux sujets de prière. Penda, vous connaissez Penda, dans cette sœur qui ne peut pas se joindre parce qu'elle travaille et dans la semaine elle m'a envoyé un SMS disant que dans la nuit du vendredi au samedi, son frère Jules a eu un accident grave là-bas au Bénin. Il a les deux jambes fracturées et il doit être opéré aujourd'hui dimanche. Donc, elle vous demande de prier pour son frère Jules. Voilà, ça, c'est un premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, Nazéla a reçu, transmis par Salia, que vous connaissez. Il y a une.
Journée
Voilà, c'est YouTube, sur YouTube, un discours de. Je sais pas si ça marche. Voilà. Sur YouTube, le pasteur, président de l'Alliance protestante en Algérie. Ce pasteur nous informe que le gouvernement algérien a décidé d'ouvrir les mosquées au début novembre pour les rencontres, les réunions de prière des musulmans. Il a déjà ouvert les églises catholiques depuis octobre. Mais il n'a pas autorisé aux églises protestantes d'avoir des réunions. Ils ont écrit auprès du gouvernement, pas de réponse. Leur dernière solution, c'est d'adresser deux courriers auprès du président de la République algérienne. Donc, ils nous demandent de prier pour les églises protestantes évangéliques algériennes pour qu'ils puissent faire des cultes légalement. Aujourd'hui est la journée qui a été déclarée une journée internationale pour l'Église protestante en Algérie. Et ils nous demandent de prier pour qu'ils aient cette liberté d'assurer les cultes. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de s'opposer à la Constitution, c'est vraiment prévu par la Constitution du pays. Voilà, deux informations qui demandent la prière. Nos
Merci.
frères et sœurs en Algérie. Il y en a même, je crois que cet été, sept églises ont été fermées, hein, déjà.
Si deux ou trois veulent prier pour ces sujets, déjà, n'hésitez pas.
Nous te prions, Seigneur, pour Jules, le frère de Zelda, qui doit être opéré pour ses deux jambes suite à cet accident. Nous te demandons dans ta grâce de conduire les chirurgiens. Te prions pour son rétablissement. Nous ne savons pas s'il est en toi, s'il te connaît. Mais à la demande de notre sœur, Seigneur, nous voulons te présenter cela. Merci, mon notre Dieu, parce que tu veux. Dans cette occasion, Jules peut se tourner aussi vers toi. Amen.
Amen.
Nous voulons te prier pour l'Algérie et pour ta sœur là-bas. C'est déjà compliqué. Et ça l'est davantage dans cette période de pandémie, du permet du gouvernement donne des directives qui, à nouveau, favorisent leur permettre de retrouver le centre trajet.
Ouais.
Nous avons un sujet de reconnaissance. En fait, ça fait un petit moment là que nous cherchons un appartement pour déménager parce que c'est pas bien pour Elana parce qu'il y a les étages, les balles pour ça marche. Et il y a aussi le fait qu'on nous a mis un avis de départ en fait à mi-décembre en fait. Et on cherchait vraiment un appartement et nous avons trouvé un appartement qui nous plaisait, qui avait deux chambres et en gros tout ce qu'il nous fallait. Et sauf que Luc, en fait, comme il a changé de travail, il n'a pas de CDI. Du coup, bah, généralement, les agences qu'on a appelées en fait, pour pouvoir occuper les appartements, nous ont toujours refusé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas.
Oui, oui.
Et du coup, bah, on a toujours eu des noms, en fait. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on va l'avoir cet appartement ou pas? Et du coup, on l'a apporté en pierre. Il y a vraiment tout ce que nous avons besoin, c'est-à-dire une carte pour l'entrée de Luc, une chambre pour Elana, une chambre à part. Et du coup, on a appuyé et on a contacté du coup notre agence et notre agence nous a appelé vendredi pour nous annoncer qu'il nous accepte en fait dans l'appartement malgré que lui n'a pas fait. Parce que du coup, il va l'avoir, mais pas tout de suite. En fait. Du coup, c'est plus par rapport à ça qu'on a été voir du coup. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'incertitude en fait. Et du coup, on a trouvé la première information. Ah, et on fait notre déménagement dans l'hôtel, excusez-moi. C'est ça se passe. Le monsieur qui habite dans le logement où on va habiter,